France Musique.
Jazz et cinéma, un mariage improvisé. Le jazz et le cinéma, ces deux arts du XXe siècle, sont nés en même temps aux États-Unis. Quand dans les années 1920-1930, dans le quartier de Harlem à New York, les Noirs prennent conscience de leur identité collective. L'apparition du mouvement Harlem Renaissance, ou New Negro, est alors un formidable élan du renouveau de la culture afro-américaine. Mouvement politique, culturel, artistique et littéraire qui voit enfin la jeune génération d'écrivains exprimer sa volonté de s'approprier son héritage africain, mais aussi revendiquer son identité américaine. En 1926, l'écrivain blanc Carl Van Vechten publie Nigger Heaven, un roman dont le succès attire à Harlem des blancs en quête d'émotions fortes, de sexualité débridée et de rythmes enivrants. Harlem devient dès lors un nouveau centre de la vie culturelle new-yorkaise. Quant à l'auteur afro-américain James Weldon Johnson, il décrit le climat de l'époque avec ces mots. La réputation de Harlem pour son parfum d'exotisme et sa sensualité colorée gagna les quatre coins du monde. Harlem était connu comme le lieu du rire, du chant, de la danse et des passions primitives, et comme le centre de la nouvelle littérature et du nouvel art nègre.
Hello everybody, welcome to our famous Cotton Club. Great to see so many friends here tonight enjoying themselves in spite of the cover charge. If you can spare a minute from your merrymaking, I'd like to have the pleasure of introducing the greatest living master of jungle music. Let her go!
Partagé entre mépris, méfiance et fascination réciproque, le jazz et le cinéma n'ont cessé de se résister, de s'observer. De nouveaux lieux de spectacle ou cabarets apparaissent à Harlem, l'Apollo Theater ou le Cotton Club. Ils sont destinés pour la première fois à un public noir. Entrent alors en scène les jazzmen. Ils jouent dans les premières comédies exclusivement noires et les pianistes comme Willie Smith inventent le steel stride au parfum de ragtime et effluves bleutés de l'improvisation. Place au cri, à l'émotion et à la spiritualité pour reprendre les mots du célèbre Willie the Lion. Les musiciens accompagnent les projections des films muets dans les salles destinées aux gens dits de couleur. Au rythme des ragtime ou boogie-woogie, le jazz devient une des premières dimensions sonores du cinéma aux États-Unis. Tout en étant une source de revenus importante pour les artistes noirs, il leur permet aussi de parfaire leur art de l'improvisation. D'un œil, ils suivent l'intrigue et livrent sur le vif leur ressenti musical. Sur des films burlesques et populaires, comme ceux de Harold Lloyd, Buster Keaton ou Charlie Chaplin, ils ponctuent les gags et jouent un rôle d'intermédiaire entre l'écran et la salle. Mais avec la naissance du cinéma parlant et la disparition du cinéma muet, les Noirs disparaissent aussi de la scène et leur musique est récupérée par des Blancs. On découvre alors, en 1927, Le Chanteur de Jazz, un film d'Alan Crossland dont le héros est un acteur blanc au visage peint au cirage. C'est le premier film musical de l'histoire du cinéma, mais pas un film sur le jazz. Même si l'acteur Al Jolson y entonne cinq chansons jazzy agrémentées de son swing. Le jazz s'installe sur les pellicules, mais sans les Noirs. Le mélange des races est interdit à l'écran, et dans les États du Sud, un producteur qui tente de faire apparaître un Noir voit son film censuré. Le musicien noir est alors mis à l'écart de la scène, comme dans le film Hollywood Hotel en 1938, où l'orchestre de Benny Goodman défile en pleine rue, tandis que ses musiciens noirs sont maintenus hors champ. Seul le caractère folklorique des musiques blues, spirituals ou walk songs est toléré pour évoquer les attributs pittoresques des petites villes de l'Amérique profonde. Le jazz joué dans les films est alors parfaitement aseptisé. Il faut répondre au code des comédies musicales en vogue dans les années 30. Purgé de toute violence et de toute subversion, l'improvisation n'a pas de place. Les racines du jazz sont dès lors coupées, son origine effacée, occultée. Il ne faut rien laisser paraître de son histoire. Le cinéma des années 30 normalise le jazz, impose ses conventions pour le rendre inoffensif et recevable pour tous les publics. Les fictions illustrent alors cette idéologie latente avec ses éléments de racisme, de ségrégation et de préjugés. Les seules prestations à l'écran des grands musiciens de jazz, comme Louis Armstrong ou Duke Ellington, ont lieu dans des rice movies, films à petit budget de piètre qualité. Ils sont interprétés par des Noirs, destinés à un public noir, mais financés par des producteurs blancs. Le film Hallelujah, sorti en 1929, est la grande exception. le réalisateur Kim Vidor réussit pour la première fois à filmer un jazz authentique, malgré quelques clichés de l'époque. Dans les années 1940, Hollywood continue à récupérer à son profit l'imagerie du jazz dans plusieurs films retraçant la vie des jazzmen. Al Johnson, Glenn Miller, Benny Goodman. Mais ces héros sont presque unanimement blancs. C'est avec Citizen Kane, film d'Orson Welles sorti en 1941, qu'un jazz écrit et arrangé par des Noirs apparaît vraiment à l'écran. C'est alors l'envers du décor qui apparaît. La part maudite du rêve américain, le son et l'image de l'Amérique sombre s'unissent sur des stridences inouïes des cuivres des jazzmen. Avec le réalisateur Otto Preminger dans Autopsie d'un meurtre, l'intensité dramatique est soutenue par l'orchestre de Duke Ellington. Jazz et films noirs portent en eux la perte de l'innocence et expriment enfin la violence diffuse et les tentations des grandes villes. La vision que le public a du jazz est alors totalement bouleversée. On entre dans l'ère du polar, où jazz, sexe et drogue se côtoient, où l'ombre recouvre la lumière, où la musique a les accords dissonants des âmes perdues et les couleurs bleutées des clubs enfumés. Un rythme cuivré dans L'homme au bras d'or en 1955. Il faut attendre les années d'après-guerre et l'arrivée massive des disques des jazzmen et des big bands sur notre continent pour que le 7e art européen s'empare totalement de cette musique qui incarne le jeu improvisé, la liberté et les atmosphères sombres. Dans Ascenseur pour l'échafaud, le jeune réalisateur Louis Malle donne le premier rôle à la trompette de Miles Davis. Le soir du 4 décembre 1957, entouré de René Utrager au piano, Pierre Michelot à la contrebasse, de Kenny Clarke à la batterie, sans oublier la nouvelle recrue Barney Whelan au saxophone, Miles Davis assiste devant un écran géant à la projection de quelques séquences, notamment celle de Jeanne Moreau marchant le long d'un trottoir des Champs-Élysées. Silence, on tourne. Au départ, une simple modulation construite sur deux accords appuyés, le frottement lancinant des balais, la contrebasse pesante et la trompette aérienne de Miles font rejaillir des improvisations à la fois mélancoliques et plaintives. Une sorte d'errance qui se colle aux images tournées par Louis Malle. À 5h du matin, l'enregistrement est bouclé. Le miracle a eu lieu. Miles Davis et ses musiciens rangent leurs instruments et s'en vont. Dans les clubs de jazz enfumés de New York, des murs tapissés de reproductions, Soutine, Picasso, masques africains, une nouvelle modernité associe cinéma, jazz et peinture. La série en noir et blanc Johnny Staccato, tournée pour la télévision à la fin des années 50, se réapproprie alors toutes les rencontres passées entre jazz et cinéma. Les seuls moments de jazz sont comme des respirations aux errances de Staccato dans les rues de New York, filmées au petit matin dans une lumière très blanche. Staccato, pianiste de jazz et séduisant détective, est incarné par John Cassavetes qui vient d'achever Shadows, son premier long-métrage sur une musique de Charles Mingus. Les nouvelles manières de filmer, le jeu nerveux des acteurs, un montage rapide, donnent une nouvelle pulsation à l'intrigue. La fin des années 1950 et le début des années 1960 marquent alors une autre rencontre du cinéma et du jazz. Sans doute un désir de la génération d'après-guerre de reconquérir le pouvoir, de confronter le cinéma au monde moderne. L'art interroge un monde entré dans l'ère de la vitesse. Le jazz, lui, est déjà ailleurs.
À réécouter sur francemusique.fr.